vous retrouve, Alain de Valpeau, le long de la Carretera Austral. Vous avez pris une carte avec vous du Chili. Alors, c'est une carte très particulière parce qu'elle ne se déplie que d'un côté, comme le Chili est un pays très très long et pas du tout large. Sur cette carte, où est-ce que nous sommes aujourd'hui ?
Nous nous rendons sur la grande île de Chiloé. Chiloé, c'est un archipel et c'est la grande île qui a donné ce nom à cet archipel. Mais avant de croiser le canal de Chacao, qui sépare la grande île du continent, je suis invité dans une communauté Mapuche. Les Mapuche, ce sont des indigènes du Chili. C'est une population assez importante, hein, 1 million de représentants a priori. Et les Mapuche qui m'invitent sont plus particulièrement des Lafkenche, c'est-à-dire des hommes qui vivent près de la mer. Lafken, mer, Che, homme. Et je suis en compagnie de Clémentina qui m'accueille pour me faire partager un de leurs repas traditionnels, le curanto.
Alors,
il y a des fruits de mer,
papa,
pommes de terre,
papa, arveja, chapaleles que se hace de harina.
Chapaleles es con harina de papa?
Harina de trigo.
Ah, avec de la farine de blé, on fait des chapaleles.
El otro que se llama milcao, ese es de papa.
Et ce que l'on fait avec la pomme de terre s'appelle milcao.
Ese es el milcao, se hace de papa.
Se mezcla, tout cela est ensemble et se mélange.
Sí, el milcao se mezcla con papa cocida. Eso también.
Alors le milcao se fait avec de la pomme de terre cuite. On fait des sortes de petits pains. Il y a de la viande, hay carne.
¿Cómo?
Hay carne también.
También hay carne, hay longaniza, el curanto.
Il y a de la viande, des saucisses. Et comment on prépare tout ça?
Ah, se prepara de una manera muy curiosa.
De manière très curieuse.
Se va preparando y se va poniendo ahí al...
Alors c'est un curanto au trou, c'est-à-dire qu'on fait un trou dans la terre, c'est un hoyo en la tierra.
Ese es el hoyo, se hace un hoyo en la tierra.
On fait un trou dans la terre et après, y después.
Después ahora ya lo están destapando para empezarse a servir.
Et comment se calenta?
Ah, se calenta con fuego, con leña.
Alors dans le trou, on met du bois qui brûle, des pierres au-dessus qui vont garder la chaleur. Et c'est par-dessus ces pierres que sont installés les ingrédients comestibles. Cela prend beaucoup de temps à préparer.
Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo.
Beaucoup de temps. Vous avez commencé à quelle heure?
Hoy se empezó a preparar como a las 2 de la tarde. Se empezó a preparar temprano.
Clémentina a commencé à travailler, à préparer le curanto à 2h de l'après-midi. Il est maintenant 7h du soir.
Bueno olorcito, buen olorcito.
Cela sent bon. On va se régaler. Vamos a comer bien.
Sí, pues, vamos a comer bien. Voy a ayudar a limpiar, a sacar el curanto. Ya.
Alors, Clémentina s'approche pour servir le curanto. Au-dessus de toutes ces couches successives de viande et de fruits de mer, on installe des couches de feuilles qui font de la cuisson, une cuisson à l'étouffée. On utilise aussi des bâches en plastique. Et cela s'appelle chapalele. Et sous la couche de chapalele, on trouve une montagne de coquillages, de fruits de mer. C'est une véritable orgie de fruits de mer.
Pancho, ¿dónde está Pancho? Pancho, sáquenle marisquito al caballero por ahí, pues si él no sabe cómo es esto.
Ahí mismo nomás.
On se sert à même la montagne de fruits de mer.
Acércate nomás, Alan, y todo lo que está ahí se puede comer.
Tout ce qui est là est pour être mangé. ¿Es para cuántas personas? ¿Es por combien de personas?
Aquí por lo menos unas 30, 40 personas. 40 personnes.
Pour 30 ou 40 personnes.
Parce que c'est beaucoup de travail, c'est lourd, harto travail cuesta.
Les curanto ici se font deux fois par an parce que c'est beaucoup de travail. Une personne seule ne peut pas préparer un tel curanto, il faut être nombreux pour travailler.
Gracias. El último. Tan gordo, hein.
Et avec gourmandise, Clémentina vient de prendre un pico rocco immense.
Tan rico.
Ça a l'air délicieux.
Se le pone limón también encima. Es más rico.
Avec un peu de citron, ça sera encore meilleur. Fernando, aujourd'hui, des curantos, on en trouve dans tous les restaurants de Puerto Montt et de la région. C'est très touristique.
Sí, turístico, pero el curanto que se prepara en los restaurantes hoy día no es este curanto típico.
Le curanto servi dans les restaurants est un curanto qui est cuit dans des casseroles. Rien à voir avec le curanto typique qui est cuit dans ce trou creusé dans la terre sur laquelle, en fait, on met des braises et les fruits de mer en cuisant provoquent de la vapeur qui cuit le reste des aliments. Les Mapuches ont une relation particulière avec la terre. Le fait de creuser un trou dans la terre pour faire cuire le curanto, cela a une signification.
Sí, absolutamente, producto de que la madre tierra la que a nosotros nos da la energía.
C'est la terre mère qui nous donne des forces, qui nous fait vivre, et cela a évidemment une signification que de faire cuire le curanto au cœur de la madre terre.
Ahora la puedes comer tranquila. Y te acerca acá, puedes degustar.
Je me trouve dans la cabine de pilotage du ferry La Pincoya. La Pincoya assure la liaison entre la ville de Chaitén et la ville de Chiloé. Je suis avec Edmundo. Edmundo, cela fait combien de temps que vous travaillez dans cette zone maritime?
Approximativement, je travaille dans cette zone deux
ans. Cela fait deux ans qu'Edmundo travaille dans cette zone. Il a commencé à travailler en tant que pilote de bateau pour les entreprises d'élevage de saumon qui sont installées dans la région. Et depuis trois jours, il est le pilote de la Pincoya. La Pincoya, de quoi s'agit-il?
C'est une sirène, c'est un ser mythologique du sud de Chile. Y se trata de que ella se le aparece a los pescadores y los engaña.
La Pincoya es un personaje de la mitología de Chiloé. Il s'agit d'une sirène qui enchante les marins. Elle enchante les marins. ¿Qué se passe-t-il?
Algunos dicen que tienen mejores pescas, otros dicen que le quita la pesca.
Certains marins racontent que quand la Pincoya apparaît, la pêche devient meilleure, d'autres que leur pêche disparaît. Donc la plupart des marins tentent de ne pas se laisser séduire quand la Pincoya apparaît. Edmundo, vous avez déjà vu, vous, la Pincoya?
Ahora, hasta lo que llevo de vida, no la he visto, pero sí me gustaría hacer.
Au cours de ma vie, non, je ne l'ai jamais vue, mais j'aimerais bien être enchanté par elle et la connaître. Il y a quelques instants, ce n'est pas la Pincoya que nous avons vue, mais une baleine. On croise souvent des baleines dans cette région.
Sí, ocurre a menudo, se ven ballenas, también se ven delfines.
Edmundo croise assez fréquemment des baleines. Il croise aussi des delfins, qu'on appelle ici toninas. Des toninas. Edmundo ajoute que l'on voit aussi assez souvent des loups de mer ou des petits phoques. Aujourd'hui, la mer est très calme. Est-ce que c'est toujours le cas, Edmundo?
El día de hoy, gracias a Dios, ha sido tranquilo.
Aujourd'hui, grâce à Dieu, le temps est calme, mais dans cette région du sud du Chili, le temps est souvent mauvais, il y a beaucoup de vent et il est fréquent que les vagues soient de 4 ou 5 mètres de hauteur. Il faut donc faire très attention. Dans la région, il y a le golfe des Peines qui a très mauvaise réputation. Vous avez déjà traversé ce golfe?
Sí, yo he cruzado el golfe de Peines con condiciones bastante malas.
Oui, Edmundo a déjà croisé le golfe des Peines par vent fort, par un vent qui dépassait les 50 nœuds. Il faut prendre beaucoup de précautions, tout le monde met son gilet de sauvetage. Vous avez déjà eu peur dans cette région lorsqu'il y a une tempête?
Ah, uno tiene un poco de miedo. Uno siempre debe respetar al mar, pero
il faut toujours respecter la mer malgré le vent, malgré les vagues, et il faut aussi garder un contrôle sur soi, et c'est en gardant un contrôle sur soi que l'on garde le contrôle et la confiance de l'équipage. Il y a une zone aussi très dangereuse tout au sud, le Cap Horn. Vous avez déjà traversé le Cap Horn?
Yo tuve la suerte de cruzar el Cap Horn en varias oportunidades. Además, una vez fui a la Antártica.
Edmundo a plusieurs reprises a croisé le Cap Horn. Il a aussi eu la chance d'aller jusqu'en Antarctique, et parfois par des conditions météo très mauvaises, avec des vagues de 8 à 9 mètres. Vous, marin, vous aimez cette région maritime?
Sí, me gusta. Yo antes pertenecía a la Armada de Chile durante 20 años.
Edmundo a pendant 20 ans travaillé dans l'armée, la marine chilienne. Il a ensuite passé une formation et il est aujourd'hui pilote sur la marine marchande. C'est une région qu'il aime beaucoup. Cela ressemble à la région des fjords en Norvège. Souvent, on voit des glaciers. C'est une zone de frontière, cette région.
Es una frontera que es bonita poder recorrerla. Acá en el sur hay mar, hielo,
la mer, les glaciers, les icebergs, les fjords. C'est une frontière où on voit beaucoup de diversité, et c'est une frontière, explique Edmundo, qui chaque jour donne envie de la connaître un peu plus, d'aller un peu plus loin.
De llegar más allá y cada día llegar más allá y conocer el máximo que uno puede.
Arrivé sur l'île de Chiloé, Alain de Valpo, elle ressemble à quoi cette île?
C'est très vert, il pleut énormément à Chiloé, c'est vallonné. Mais ce qui est le plus remarquable, ce sont les maisons. Elles sont construites en bois et la forme des briques de bois font penser à des écailles. Et on a l'impression que ces maisons en fait sortent de la mer et n'ont pas encore pris le temps de muer et d'abandonner leurs écailles.
Et de sécher.
Et puis encore, petit détail important, les églises aussi. Elles sont toutes colorées, jaunes, bleues, mauves. Et d'ailleurs, les églises de Chiloé ont été déclarées patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.
Alors, vous êtes sur cette île de Chiloé et vous rencontrez Renato Cardenas.
Oui, c'est le directeur des archives de Chiloé. C'est une petite bibliothèque privée où tout le fonds est consacré à Chiloé. Donc il est bien placé pour me raconter son île. Et il m'invite dans un premier temps à aller dans un petit village de pêcheurs qui est au nord de Castro. Castro étant la capitale de Chiloé. Il m'invite à aller à Dalcahué où nous nous retrouvons dans une gargote.
Mira, esta es una. Tiene que ver con el desarrollo del turismo, ¿eh? Todo el proceso este, donde aparecen las cocinerías.
Renato m'explique que ce genre d'endroit est en fait un endroit pour touristes où on peut manger des plats traditionnels. Quels sont les plats traditionnels que l'on peut manger?
Lo que vemos acá, por ejemplo, el milcao. El milcao es un pan de papa rallada, cruda, junto con papa cocida, y que se transforma en un pan frito.
Il y a par exemple le milcao, qui est une sorte de beignet de pommes de terre, crue avec de la pomme de terre cuite mélangée, et qui devient une pâte qui est frite. Et le milcao, explique Renato, est important car à Chiloé, la papa, la pomme de terre, c'est un aliment central de la cuisine. Il y a plus de 400 sortes de pommes de terre à Chiloé. On dit même que la pomme de terre est née à Chiloé, Renato.
Bueno, hay dos teorías, dos hipótesis respecto a eso. Una es que haya surgido en el altiplano peruano boliviano.
Il y a en fait deux versions. La pomme de terre serait née sur l'altiplano andin. La seconde version est que la pomme de terre serait née à Chiloé. Il y a, selon les recherches, preuve que la pomme de terre existait déjà à Chiloé il y a 12 000 ans et qu'elle se consommait.
Et la autre situation est que el 83% de las papas que existen en el mundo
83% des variétés de pommes de terre ont une origine chilotée et cela serait dû à la latitude de l'île et aussi au rayonnement solaire et à sa manière dont et à la manière dont les rayons arrivent.
Que produzca mejor la papa de Chiloé que la del altiplano.
83%.
La papa rellena.
Selon Renato, c'est ici que l'on trouve le meilleur cholestérol de l'île de Chiloé, chez Doña Maria. Renato, beaucoup de Chiloté, les habitants de Chiloé, sont partis conquérir, coloniser la Patagonie. Pourquoi ?
Los Chilotes, por falta de trabajo acá en su tierra, commencèrent à déplacer vers le sud.
À la recherche de travail, les habitants de l'île, au début du XXe siècle, sont partis chercher du travail plus au sud, du côté argentin, mais aussi du côté chilien.
Et c'est ainsi que se trasladó un contingente énorme de chilotes, de miles, et hoy el pueblo chilote pertenece a dos países.
Ils ont été des milliers et des milliers à partir vers le sud et aujourd'hui, Renato explique que les Chilotes appartiennent à deux pays, le sud du Chili mais aussi le sud de l'Argentine. Aujourd'hui, Renato, on dit qu'il y a plus de Chilotes qui vivent en dehors de l'île de Chiloé que de Chilotes qui vivent à Chiloé.
Claro, hoy hay más gente que vive afuera de Chiloé, que en Chiloé, las ciudades con más chilotes no están acá.
Les grandes villes chilotées, où vivent une majorité de chilotés, ne sont pas ici à Chiloé, mais sont plus au sud, en Patagonie, c'est Punta Arenas, en Chili, c'est Rio Gallegos, en Argentine.
A partir de los 80, ese proceso sí se corta.
Renato, a Castro, Dalcahué, Chomchis, nous sommes sur la grande île de Chiloé. Dans les petites îles, comment se passe la vie quotidienne ?
Primero uno tiene que ser isleño para vivir en una isla, sino tú puedes sentir claustrofobia, ¿no? La gente de las islas
vive feliz. Il faut être né dans une île pour pouvoir vivre dans une île, sinon on se sent un peu claustrophobe. Et les gens qui vivent dans ces petites îles autour de la grande île de Chiloé sortent assez rarement chaque année de leur île et ils sortent le plus souvent pour des raisons administratives et pour accomplir certaines démarches.
Bueno, la gente de las islas trabaja la tierra y trabaja el mar. Son pescadores, mariscadores.
Ces gens-là travaillent à la fois la terre et la mer. Ils sont à la fois pêcheurs, ils ramassent des fruits de mer et ils cultivent aussi des champs. Et ce qui importe aussi beaucoup, c'est la vie familiale et la vie communautaire.
En ese mundo, entonces muy privado, se va transformando, llevando esa cotidianidad a dimensiones de repente muy interesantes. O hacen algo extraordinario durante su vida, como por ejemplo,
le quotidien de ces gens-là peut se transformer soit en faisant des choses extraordinaires, comme aller conquérir et coloniser la Patagonie, soit d'une manière beaucoup plus spirituelle, développer une mythologie et des légendes qui sont aussi une manière de voyager.
Es un viajero siempre, ¿no? El chilote es un viajero. Y eso hace tal vez
le chiloté est un grand voyageur et cette vie quotidienne dans laquelle il trouve son compte ne le rend pas claustrophobe, il se sent bien.
De hecho, nuestra herencia viene de un pueblo fundamentalmente de mar, los chonos. Los chonos es un pueblo canoero, uno de los últimos canoeros que tuvo la humanidad.
Se retrouve dans l'héritage du peuple de Chiloé, qui vient des chonos, un peuple indigène qui vivait dans ces canaux des mers australes en se déplaçant dans des embarcations très rudimentaires.
Incluso para los españoles que conquistaron.
Si tu, ñañita, mati, chiquis,
Alain de Valpour, à écouter Renato Cardenas, on a vraiment l'impression d'une grande ouverture au monde des habitants de cette île de Chiloé, qui pourtant est au bout du monde, justement. Est-ce qu'on la ressent, cette ouverture à Chiloé ?
Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est le monde qui vient de Chiloé. Aujourd'hui, le flux est inverse. On ne migre plus, ce sont plutôt les Chiliens du Nord qui migrent vers Chiloé ou les touristes qui viennent à Chiloé. Et m'a raconté Monseigneur Isserne, ex-évêque de Chiloé d'origine espagnole, avec qui j'ai eu un long entretien. Il me disait cette arrivée du monde à Chiloé a été tellement brutale, tellement rapide que cela a provoqué un choc culturel.
Qui vient à Chiloé maintenant ?
Des travailleurs pour s'embaucher dans l'industrie du saumon, des touristes aussi. Et ces gens ne viennent pas forcément avec un esprit de découverte et ils viennent plutôt pour faire de l'argent rapidement et puis éventuellement rentrer chez eux.
Il y a beaucoup de monde à Chiloé aujourd'hui ? Il y a beaucoup d'étrangers ?
Il y a beaucoup d'étrangers et des entreprises. Bon, les touristes, mettons ça à part, mais c'est surtout le commerce autour du saumon qui est important. Monseigneur Isserne me disait l'or rose de Chiloé, finalement Chiloé et les Chilotés, c'est-à-dire les gens et la culture Chiloté, les gens qui habitent ici, ont vendu leur âme pour cet or rose.